Chapitre 13. Je continue mon métier d'homme à la mode. Je me trouve avoir déjà rempli bien des vingtaines de pages, et cependant il me reste encore à raconter une bonne partie de ce qu'il y a de plus intéressant dans mon histoire, à savoir mon séjour dans les royaumes d'Angleterre et d'Irlande, et le grand rôle que j'y jouais, frayant avec les plus illustres du pays, et moi-même n'étant pas le moins distingué de ce brillant cercle. Afin donc de rendre justice à cette portion de mes mémoires, qui a plus d'importance que n'en saurait avoir mes aventures à l'étranger, quoique celles-ci puissent me fournir des volumes de descriptions intéressantes, j'abrégerai la relation de mes voyages en Europe et de mes succès dans les cours du continent, et je parlerai de ce qui m'arriva dans mon pays. Qu'il suffise de dire qu'il n'est pas de capitale en Europe, excepté cette misérable ville de Berlin, où le jeune chevalier de Balibari n'ait été connu et admiré, et où il n'ait fait parler de lui parmi les braves, les grands seigneurs et les belles. À Pétersbourg, au palais d'hiver, je gagnai à Potemkin 80 000 roubles que ce gredin de favori ne m'a jamais payé. J'ai eu l'honneur de voir Son Altesse Royale le chevalier Charles-Édouard aussi ivre qu'aucun portefeuille de Rome. Mon oncle a joué plusieurs parties du billard contre le célèbre Lord G. à Spa, et je vous promets, il n'en est pas sorti vaincu. Le fait est que grâce à un joli stratagème de notre invention, nous mîmes les rires de notre côté et dans notre poche quelque chose de beaucoup plus substantiel. Milord ne savait pas que le chevalier Barry était borgne. Et lorsque, un jour, mon oncle, en plaisantant, proposa de jouer contre lui au billard avec un morceau de taffetas sur un œil, s'il voulait lui rendre des points, le noble Lord, croyant nous attraper, c'était un des plus effrénés joueurs du monde, accepta le pari et nous lui gagnâmes une somme considérable. Je n'ai pas besoin non plus de faire mention de mes succès auprès de la plus belle moitié de la création. Un des plus accomplis, des plus grands, des plus athlétiques et des plus beaux gentilshommes de l'Europe, tel que j'étais alors, un jeune garçon de ma tournure ne pouvait manquer d'occasions avantageuses dont une personne de mon caractère savait fort bien profiter. Charmante Chouvalov, Xotarska à l'œil noir, brune Valdès, tendre Eigenheim, brillante Langeac, cœur compatissant qui aviez appris jadis à battre pour le chaleureux jeune gentilhomme irlandais, où êtes-vous à présent? Quoique mes cheveux aient blanchi, et que ma vue se soit obscurcie, et que mon cœur se soit refroidi avec les années, et l'ennui et le désappointement et les trahisons de l'amitié, je n'ai qu'à me renverser dans mon fauteuil et à rêver, et aussitôt ces charmantes figures se dressent devant moi avec leur sourire et leur bienveillance et leurs brillants et tendres yeux. Il n'est plus de femmes comme elles maintenant, plus de manières comme les leurs. Regardez ce troupeau de femmes chez le prince, cousues dans des gaines de satin blanc, avec leurs tailles sous les bras, et comparez-les aux gracieuses tournures de l'Ancien Régime. Quand je dansais avec Coralie de Langeac, aux fêtes données pour la naissance du premier dauphin à Versailles, ses paniers avaient 18 pieds de circonférence, et les talons de ses adorables petites mules étaient hauts de 3 pouces. La dentelle de mon jabot valait 2 000 écus, et les boutons de mon habit de velours amarante coûtaient seuls 80 000 livres. Voyez la différence aujourd'hui. Les gentilshommes sont habillés comme des boxeurs, des quakers ou des cochers de fiacre, et les dames ne sont pas habillées du tout. Il n'y a ni élégance, ni raffinement, plus rien de cette chevalerie du vieux temps dont je fais partie. Dire que le roi de la mode à Londres est un Brummel, un homme de rien, un être vulgaire qui ne sait pas plus danser un menuet, que je ne sais parler Cherokee, qui ne sait pas même vider une bouteille en gentilhomme, qui ne sait jamais montrer homme épée à la main, comme nous le faisions au bon vieux temps, avant que ce corse de bas étage eût mis sans dessus-dessous la noblesse du monde entier. Oh, revoir encore la Valdès comme au jour où je la rencontrai pour la première fois, se promenant en grande pompe avec ses 8 mules et son cortège de gentilshommes le long du jaune Mansonarès. Oh, courir une fois encore avec Eigenheim dans ce traîneau doré sur la neige saxonne. Toute fausse qu'était Chouvalov, mieux valait être trompé par elle qu'adoré par toute autre femme. Je ne puis penser à aucune d'elles sans attendrissement. J'ai de leurs cheveux à toutes dans mon pauvre petit muséum de souvenirs. Conservez-vous les miens, chères âmes, qui survivez aux agitations et aux tourments de près d'un demi-siècle? Comme la couleur en est différente, à présent, de ce qu'elle était, le jour où Xotarska les portait autour de son cou, après mon duel avec le comte Biernaski, à Varsovie. Je ne tenais jamais de misérables livres de comptes en ce temps-là. Je n'avais pas de dettes. Je payais royalement tout ce que je prenais, et je prenais tout ce qui me plaisait. Mon revenu devait être fort considérable. Ma table et mes équipages étaient ceux d'un gentilhomme de la plus haute distinction, et qu'aucun drôle ne se permette de ricaner, parce que j'enlevais et épousais Milady Lindon, comme vous le saurez bientôt, et ne m'appelle un aventurier, ou ne dise que j'étais sans le sou, ou que l'union était disproportionnée. Sans le sou, j'avais toutes les richesses de l'Europe à mes ordres. Aventurier, oui, comme l'est un avocat de mérite ou un vaillant soldat, comme l'est tout homme qui fait fortune par lui-même. Ma profession était le jeu, et j'y étais alors sans rival. Personne en Europe ne pouvait jouer avec moi à but. Et mon revenu était aussi assuré, en santé et dans l'exercice de ma profession, que celui d'un homme qui touche son 3% ou d'un gros propriétaire qui perçoit le prix de ses fermages. La moisson n'est pas plus certaine que ne l'est le résultat de l'habileté. Une récolte est tout aussi chanceuse qu'une partie de cartes largement jouée par un grand joueur. Il peut survenir une sécheresse, ou une gelée, ou une grêle, et votre enjeu est perdu. Mais, aventurier pour aventurier, l'un vaut l'autre. En évoquant le souvenir de ces aimables et belles créatures, je n'éprouve que du plaisir. Je voudrais pouvoir en dire autant d'une autre dame qui va désormais jouer un rôle important dans le drame de ma vie. Je parle de la comtesse de Linden, dont je fis la fatale connaissance à Spa, fort peu de temps après que les événements décrits dans le dernier chapitre m'eurent forcé de quitter l'Allemagne. Honoria, comtesse de Linden, vicomtesse Bullingdon en Angleterre, baronne Castle Linden du Royaume d'Irlande, était si bien connue dans le grand monde de son temps que je n'ai guère besoin d'entamer l'histoire de sa famille, qui se trouve dans Two Pier Ridge, armorial, sur lequel le lecteur pourra mettre la main. Elle était, il est inutile de le dire, comtesse, vicomtesse et baronne de son chef. Ses terres du Devon et du Cornwall étaient les plus considérables de ses comtés. Ses propriétés irlandaises n'étaient pas moins magnifiques, et il en a été dit un mot en passant, dans la toute première partie de ses mémoires, comme étant située près de mon patrimoine dans le royaume d'Irlande. Le fait est que d'injustes confiscations du temps d'Élisabeth et de son père avaient diminué mes acres de terre, tandis qu'elles augmentaient au contraire les possessions déjà si vastes de la famille Lindon. La comtesse, la première fois que je la vis à l'assemblée de Spa, était la femme de son cousin et le très honorable Sir Charles Reginald Lindon, chevalier du bain et ministre de George II et de George III, auprès de plusieurs petites cours d'Europe. Sir Charles Lindon était célèbre comme bel esprit et comme bon vivant. Il faisait des vers amoureux comme Hanbury Williams et des plaisanteries avec George Selwyn. Il était amateur de curiosité comme Horace Walpole, avec lequel, et M. Gray, il avait fait une partie du grand tour et était cité en un mot comme un des hommes les plus élégants et les plus accomplis de son temps. Je fis connaissance avec ce gentilhomme, comme d'habitude, au jeu, où il était fort assidu. On ne pouvait même s'empêcher d'admirer le feu et la vaillantise avec lesquels il poursuivait son passe-temps favori. Car, bien que rongé par la goutte et mille maladies, pauvre estropié, roulé dans un fauteuil et souffrant le martyr, on le voyait matin et soir à son poste derrière l'adorable tapis vert. Et si, comme il arrivait souvent, ses mains étaient trop faibles ou trop enflammées pour tenir le cornet, il n'en appelait pas moins les dés et avait un valet ou un ami pour les jeter à sa place. J'aime le courage dans un homme. Les plus grands succès dans la vie ont été obtenus par cette indomptable persévérance. J'étais, à cette époque, un des personnages les mieux connus en Europe, et la renommée de mes exploits, mes duels, mon courage au jeu, attirait la foule autour de moi dans toutes les sociétés publiques où je paraissais. Je pourrais montrer des rames de papier parfumé pour prouver que cette ardeur à faire connaissance avec moi ne se bornait pas aux hommes, n'était que je déteste la vanterie et que je ne parle de moi qu'autant qu'il est nécessaire pour relater les aventures de votre serviteur, qui sont plus singulières que celles d'aucun homme d'Europe. Or, ma connaissance avec Sir Charles Lyndon se fit au piquet où le très honorable chevalier me gagna 700 pièces. À ce jeu, il était presque de ma force. Et je les perdis avec la plus belle humeur et les payais. Et je les payais, vous pouvez en être sûr, ponctuellement. Vraiment, je puis dire ceci à mon éloge, que la perte au jeu ne m'a jamais le moins du monde mis de mauvaise humeur contre le gagnant, et que toutes les fois que je rencontrais un joueur plus fort que moi, j'étais toujours prêt à le reconnaître et à le proclamer tel. Lyndon fut très fier d'avoir gagné une personne si célèbre, et nous contractâmes une sorte d'intimité qui, toutefois, pour quelque temps, n'alla point au-delà des attentions échangées au salon de conversation et des causeries pendant le souper du jeu, mais qui augmenta par degrés jusqu'à ce que je fusse admis dans son amitié plus particulière. C'était un homme qui avait son franc-parler, les gentilshommes d'alors étaient bien plus fiers qu'à présent, et il me disait avec son aisance hautaine « Dieu me damne, monsieur Barry, vous n'avez pas plus de manières qu'un barbier, et je crois que mon nègre a été mieux élevé que vous. Mais vous avez de l'originalité et du nerf, et vous me plaisez, jeune homme, parce que vous paraissez déterminé à aller au diable par un chemin à vous. » Je le remerciais en riant et lui disais que, comme il partirait pour l'autre monde bien avant moi, je lui serais obligé de m'y faire préparer un logement confortable. Il s'amusait aussi prodigieusement de mes histoires sur la splendeur de ma famille et la magnificence de Castle Brady. Il ne se lassait jamais d'écouter ces histoires ni d'en rire. « Tenez-vous-en aux atouts, néanmoins, mon garçon, disait-il, quand je lui parlais de mes malheurs dans la carrière matrimoniale, et du peu qu'il en était fallu que je n'eusse la plus grande fortune de l'Allemagne. Faites tout plutôt que de vous marier, mon innocent campagnard irlandais. Il me donnait une foule de singuliers noms. Cultivez vos grands talents au jeu, mais souvenez-vous de ceci, à celui du mariage, vous serez battu. » Ceci, je le niais, citant plusieurs cas dans lesquels j'étais venu à bout des caractères des femmes les plus intraitables. « Elles vous battront, en fin de compte, mon Alcibiade de Tipperary. Sitôt que vous serez marié, croyez-en ma parole, vous serez maté. Voyez-moi, j'ai épousé ma cousine, la plus noble et la plus grande héritière de l'Angleterre, épousée presque malgré elle, ici un nuage sombre passa sur les traits de Sir Charles Lyndon. C'est une femme faible. Vous la verrez, monsieur, vous verrez à quel point elle est faible. Mais elle est la maîtresse. » Elle a rempli d'amertume toute ma vie. C'est une bête, mais elle a été plus forte qu'une des meilleures têtes de la chrétienté. Elle est énormément riche, mais je ne sais comment, je n'ai jamais été si pauvre que depuis que je suis marié. Je croyais m'en trouver mieux, et elle m'a rendu misérable et m'a tué. Et elle en fera autant à mon successeur quand je serai parti. Est-ce que Milady a une fortune très considérable, dis-je? À ces mots, Sir Charles partit d'un violent éclat de rire et ne me fit pas rougir médiocrement de ma gaucherie. Le fait est que le voyant dans l'état où il était, je n'avais pu m'empêcher de spéculer sur la chance qu'aurait un homme entreprenant d'épouser sa veuve. « Non, non, dit-il en riant, monsieur Barry, si vous tenez à la paix de votre âme, ne songez pas à chausser mes souliers quand ils seront vacants. D'ailleurs, je ne pense pas que Milady Lyndon voulût tout à fait condescendre à épouser un... « Épouser un quoi, monsieur ? » dis-je en fureur. « Laissons cela, mais l'homme qui l'aura s'en mordra les doigts, je vous en réponds. La peste soit d'elle. Sans l'ambition de mon père et la mienne, il était son oncle et son tuteur, et ne voulait pas laisser sortir de la famille un tel butin, j'aurais pu mourir paisiblement, du moins porter en paix ma goutte au tombeau, vivre dans ma modeste habitation de Mayfair. Toutes les maisons de l'Angleterre m'auraient été ouvertes, et maintenant... Maintenant, j'en ai 6 à moi, et chacune d'elles est un enfer. Méfiez-vous des grandeurs, monsieur Barry, que mon exemple vous serve de leçon. Depuis que je suis marié et que je suis riche, je suis la plus misérable créature du monde. Regardez-moi, je suis mourant, estropié, usé jusqu'à la corde à 50 ans. Le mariage m'a vieilli de 40 années. Quand j'enlevais Lady Lyndon, il n'y avait pas d'homme de mon âge qui eût l'air aussi jeune. imbécile que j'étais. J'avais bien assez avec mes pensions, ma liberté complète, la meilleure société d'Europe. Et je renonçais à tout cela, et je me mariais, et je fus misérable. Prenez exemple sur moi, capitaine Barry, et tenez-vous-en aux atouts. Quoique je fusse très intime avec le chevalier, je fus longtemps sans pénétrer dans aucun autre appartement de son hôtel que celui qu'il occupait. Sa femme vivait tout à fait à part, et l'étonnant, c'est qu'ils en vinssent jamais à voyager ensemble. Elle était filleule de la vieille Mary Wortley Montagu, et comme cette fameuse vieille du siècle dernier avait des prétentions considérables à être un bas-bleu et un bel esprit. Lady Lyndon écrivait des poésies en anglais et en italien que les curieux peuvent encore lire dans les magazines de l'époque. Elle entretenait une correspondance avec plusieurs des savants de l'Europe sur l'histoire, la science, les langues anciennes et surtout la théologie. Son plaisir était de discuter des points de controverse avec des abbés et des évêques, et ses flatteurs disaient qu'elle rivalisait d'érudition avec Madame Dacier. Tout aventurier qui avait une découverte en chimie, un nouveau buste antique ou un plan pour découvrir la pierre philosophale était sûr d'obtenir son patronage. Il lui était dédié d'innombrables ouvrages et adressé des sonnets sans fin par tous les rimailleurs d'Europe sous le nom de Lindonira ou Calista. Ses chambres étaient encombrées de hideux magots de la Chine et de toutes sortes d'objets de curiosité. Aucune femme n'était plus à cheval sur ses principes, aucune n'était plus disposée à se laisser faire la cour. Les beaux messieurs d'alors avaient une manière de courtiser qui est peu comprise à notre époque grossière et positive. Jeunes et vieux, dans des lettres et des madrigaux, inondaient les femmes d'un déluge de compliments qui ferait ouvrir de grands yeux à une femme raisonnable si on le lui adressait aujourd'hui, tant la galanterie du siècle dernier a complètement disparu de nos mœurs. Lady Lyndon marchait entourée d'une petite cour à elle. Elle avait une demi-douzaine de voitures dans ses voyages. Elle était dans la sienne avec sa dame de compagnie, quelques dames de qualité près de ses pièces, ses oiseaux, ses bichons et le savant favori du moment. Dans une autre étaient son secrétaire femelle et ses femmes de chambre, qui, en dépit de leurs soins, ne pouvaient faire autre chose de leur maîtresse qu'une souillon. Sir Charles Lyndon avait son propre carrosse et les domestiques suivaient dans d'autres voitures. Il faut aussi mentionner celle où était le chaplain de Milady, M. Runt, qui remplissait les fonctions de gouverneur de son fils, le petit vicomte de Bullingdon, un petit garçon mélancolique et délaissé, qui était plus qu'indifférent à son père et que sa mère ne voyait jamais, sauf 2 minutes à son lever, où elle lui posait quelques questions d'histoire ou de grammaire latine, après quoi on le renvoyait à ses amusements et aux soins du gouverneur pour le reste de la journée. L'idée d'une telle Minerve, que je voyais de temps à autre dans les lieux publics, entourée d'un essaim de maîtres d'école et d'abbés besogneux qui la flattaient, m'effraya pour quelque temps, et je n'eus pas le moindre désir de faire sa connaissance. Je n'avais nulle envie de grossir le cortège de faméliques adorateurs qui suivaient cette grande dame, des drôles, moitié amis, moitié laquais, qui composaient des vers et écrivaient des lettres, et faisaient des commissions, satisfaits d'obtenir pour leur peine une place dans la loge de sa seigneurie à la Comédie, ou un couvert à sa table au dîner de midi. « N'ayez pas peur, » disait Sir Charles Lyndon, qui faisait toujours de sa femme un sujet de conversation et de sarcasme, « mais Lindouira n'aura rien à faire avec vous. Elle aime le brogue, patois, toscan, et non celui de Kerry. Elle dit que vous sentez trop l'écurie pour être admis dans la société des dames. Et, il y a eu dimanche 15 jours, la dernière fois qu'elle m'a fait l'honneur de me parler, elle a dit « Je m'étonne, Sir Charles Lyndon, qu'un gentilhomme qui a été ambassadeur du roi s'abaisse jusqu'à jouer et boire avec de vils chevaliers d'industrie irlandais. Ne vous mettez pas en fureur, je suis estropié, et c'est Lindonira qui l'a dit, ce n'est pas moi. » Ceci me piqua, et je résolus de faire connaissance avec Lady Lyndon, ne fût-ce que pour lui montrer que le descendant de ses Barry, dont elle avait injustement entre les mains la propriété, n'était indigne de la compagnie d'aucune dame, si haut qu'elle fût placée. D'ailleurs, mon ami le chevalier se mourait, et sa veuve serait la plus riche proie des 3 royaumes. Pourquoi ne pas m'en emparer, et par elle me donner le moyen de faire dans le monde la figure que me conseillaient mon génie et mon inclination? Je me sentais l'égal, comme sang et comme éducation, de tous les Lindon de la chrétienté, et je résolus de faire piller cette dame hautaine. Quand j'ai pris une résolution, je regarde la chose comme faite. Mon oncle et moi nous en parlâmes, et nous eûmes bientôt trouvé un moyen d'approcher cette imposante lady de Castle Lindon. Monsieur Runt, le gouverneur du jeune Bullingdon, aimait le plaisir, un verre de vin du Rhin dans les jardins publics les soirs d'été, et une petite partie de dés à la dérobée quand l'occasion s'en présentait. Et je pris soin de me lier avec ce personnage qui, étant un professeur de collège et un Anglais, était tout prêt à se mettre à deux genoux devant quiconque ressemblait à un homme de qualité. Me voyant avec ma suite de domestiques, mon vis-à-vis et mes autres voitures, mes valets, mon hussard et mes chevaux, vêtus d'or, de velours et de zibeline, saluant les plus grands personnages de l'Europe, quand nous nous rencontrions sur le cours ou à la source, Runt fut ébloui de mes avances et je le menai du bout du doigt. Je n'oublierai jamais l'étonnement du pauvre diable quand je le priai à dîner, avec deux comptes, dans de la vaisselle d'or au petit salon du casino. Nous le rendîmes heureux en lui permettant de nous gagner quelques pièces. Il se grisa complètement, chanta des chansons de Cambridge et recréa la compagnie en nous contant, dans son horrible français du Yorkshire, des histoires sur les gyps domestiques et sur tous les lords qui avaient jamais été à son collège. Je l'encourageai à me venir voir plus souvent et à m'amener son petit vicomte, pour qui, quoique l'enfant m'eût en aversion, je prenais soin d'avoir, lorsqu'il venait, une bonne provision de sucreries, de jouets et de livres d'images. J'entamais alors une controverse avec M. Runt, et je lui confiai quelques doutes que j'avais et mon penchant très prononcé pour l'église de Rome. Je me fis écrire, par un certain abbé de ma connaissance, des lettres sur la transsubstantiation, etc., que le digne professeur eut de la peine à réfuter, et je savais qu'elle serait communiquée à sa maîtresse. Et en effet, ayant demandé la permission d'assister au service anglais qui était célébré dans son appartement et fréquenté par ce qu'il y avait de mieux en fait d'anglais à Spa, le second dimanche, elle daigna jeter un regard sur moi. Le troisième, elle voulut bien répondre à mon profond salut par une révérence. Le lendemain, je cultivai la connaissance par un autre salut à la promenade et, pour abréger, sa Seigneurie et moi, nous étions avant 6 semaines en pleine correspondance sur la transsubstantiation. Milady était venue au secours de son chapelain, et alors je commençais à sentir le poids prodigieux de ses arguments, comme on devait s'y attendre. Le progrès de cette innocente petite intrigue n'a pas besoin d'être raconté en détail. Je ne doute pas que chacun de mes lecteurs n'ait pratiqué de semblables stratagèmes lorsqu'il s'est agi d'une belle dame. Je n'oublierai jamais l'étonnement de Sir Charles Linton lorsqu'un soir d'été, qu'il sortait pour aller au jeu en chaise à porteur, selon son habitude, la calèche à 4 chevaux de Milady, avec ses piqueurs à la livrée chamois d'Ellington, entra dans la maison qu'elle habitait, et dans cette voiture, à côté de sa seigneurie, qui vit-il assis? Ce vulgaire aventurier irlandais, comme il lui plaisait de l'appeler, je veux dire Redmond Barry Esquire. Il fit le plus courtois des saluts et grimaça un sourire, et agita son chapeau d'une façon aussi gracieuse que le lui permettait la goutte, et Milady et moi nous répondîmes à ce salut avec la politesse et l'élégance la plus parfaite. Je fus quelque temps sans pouvoir me rendre au jeu, car j'eus avec Lady Lindon une discussion sur la transsubstantiation qui dura 3 heures, dans laquelle elle fut, comme de coutume, victorieuse, et où sa dame de compagnie, l'honorable Miss Flint Skinner, s'endormit. Mais lorsqu'enfin je pus rejoindre Sir Charles au casino, il me reçut avec un bruyant éclat de rire comme à l'ordinaire, et me présenta à toute la compagnie comme l'intéressant jeune converti de Lady Lindon. C'était sa manière. Il riait et ricanait de tout. Il riait lorsqu'il était dans le paroxysme de la souffrance, il riait lorsqu'il gagnait de l'argent ou lorsqu'il en perdait. Son rire n'était ni jovial ni agréable, mais plutôt pénible et sardonique. « Messieurs, dit-il à Panther, au colonel Loder, au comte du Carreau et à plusieurs autres joyeux compagnons, avec lesquels il avait coutume de prendre une bouteille de vin de champagne et 1 ou 2 truites du Rhin après le jeu, voyez cet aimable jouvenceau. Il a été troublé de scrupules religieux et s'est réfugié dans les bras de mon chapelain, M. Runt, qui a demandé conseil à ma femme, Lady Lindon. Et entre deux, ils sont occupés à confirmer dans sa foi mon ingénieux jeune ami. Avez-vous jamais ouï parler de semblable docteur et d'un semblable disciple ? Ma foi, monsieur, dis-je, si je veux me donner de bons principes, assurément, je fais mieux de m'adresser à votre femme et à votre chapelain qu'à vous. Il veut chausser mes souliers, continua le chevalier. Heureux serait l'homme qui le ferait, répondis-je, pourvu qu'il n'y fût pas resté de morceaux de craie. Réponse qui ne fit pas grand plaisir à Sir Charles et qui ne fit qu'accroître sa rancune. Il ne se gênait pas pour parler quand il était dans les vignes du Seigneur, et, à vrai dire, il y était beaucoup plus de fois par semaine que ses médecins ne le permettaient. « N'est-ce pas un plaisir pour moi, messieurs, dit-il, qui ai un pied dans la tombe, de me voir à l'intérieur si heureux, une femme si tendre pour moi, qu'elle songe déjà à me donner un successeur ?»« Je ne parle pas de vous, précisément, monsieur Barry. Vous ne faites que courir votre chance avec une vingtaine d'autres que je pourrais citer. N'est-ce pas une consolation de la voir, en prudente ménagère, apprêter toute chose pour le départ de son mari ? J'espère que vous ne songez pas à nous quitter de sitôt, chevalier, dis-je, en toute sincérité, car j'aimais sa très amusante compagnie. Pas sitôt, mon cher, que vous vous le figurez peut-être, continua-t-il. Eh, camarade, voilà 4 ans que je suis considéré à tout instant comme perdu, et il y a toujours un ou deux candidats qui attendent pour demander la place. Qui sait combien de temps encore je puis vous faire attendre ? Et il le fit en effet un peu plus longtemps qu'il n'y avait lieu de le supposer à cette époque. M'étant expliqué assez ouvertement, selon mon habitude, et les auteurs ayant coutume de décrire la personne des dames dont leurs héros tombent amoureux, conformément à cette mode, je devrais peut-être dire un mot ou deux des charmes de Milady Lyndon. Mais quoique je les ai célébrés dans maintes pièces de verre copiées par moi et par d'autres, et quoique j'ai rempli des rames de papier de compliments, dans le style passionné d'alors, sur chacun de ses attraits et de ses sourires, où je la comparais à chaque fleur, à chaque déesse, à chaque fameuse héroïne, la vérité me force à dire qu'il n'y avait rien du tout de divin en elle. Elle était fort bien, mais rien de plus. Elle était bien faite, avec les cheveux noirs, les yeux jolis, et était excessivement active. Elle aimait le chant, mais elle chantait elle-même, comme devait le faire une si grande dame, extrêmement faux. Elle avait une teinture d'une demi-douzaine de langues modernes, et comme je l'ai déjà dit, de beaucoup plus de sciences que je n'en connais même de nom. Elle se piquait de savoir le grec et le latin, mais la vérité est que M. Hunt lui fournissait les citations qu'elle introduisait dans sa volumineuse correspondance. Elle avait autant d'envie d'être admirée, une vanité aussi forte, aussi inquiète, et aussi peu de cœur qu'aucune femme que j'ai jamais connue. Sans cela, quand son fils Lord Bullingdon, par suite de ses querelles avec moi, s'enfuit, mais ceci sera rapporté en temps et lieu. Finalement, Milady Lyndon avait environ 1 an de plus que moi, quoique, comme de raison, elle eût prêté serment sur sa Bible qu'elle était de 3 ans plus jeune. Il y a peu de gens aussi honnêtes que moi, car il y en a peu qui avouent leurs motifs réels, et il m'est bien égal de confesser les miens. Ce que disait Sir Charles Lyndon était parfaitement vrai. J'avais fait connaissance avec Lady Lyndon dans des vues ultérieures. « Monsieur, lui dis-je, quand nous nous rencontrâmes seuls après la scène que j'ai décrite et les plaisanteries qu'il avait faites sur moi, c'est à ceux qui gagnent de rire. Vous avez été fort divertissant, il y a quelques jours, à propos de mes intentions sur votre femme. Eh bien, si elles sont ce que vous les croyez, si j'ai envie de chausser vos souliers, eh bien après, je n'ai pas d'autres intentions que celles que vous eûtes vous-même. Je puis bien promettre sous serment d'être capable d'autant d'égards pour Milady Lyndon que vous lui en avez témoigné. Et si je fais sa conquête, quand vous serez mort et enterré, corbleu, chevalier, croyez-vous que la peur de vous voir revenir de l'autre monde me détournera de mon projet ? Lyndon se mit à rire comme d'ordinaire, mais il était un peu déconcerté. Évidemment, j'avais le dessus dans la discussion et autant de droit que lui de chercher fortune. Mais un jour, il dit, « Si vous épousez une femme telle que Milady Lyndon, faites-y bien attention, vous le regretterez. Vous pleurerez la liberté dont vous jouissiez jadis. Par George, capitaine Barry, ajouta-t-il avec un soupir, Ce que je regrette le plus dans ma vie, peut-être parce que je suis vieux, blasé et mourant, c'est de n'avoir jamais eu un attachement vertueux. Ah ah, une fille de laitière, dis-je, en riant de l'absurdité. Eh bien, pourquoi pas une fille de laitière? Mon bon ami, j'ai été amoureux dans ma jeunesse, comme le sont la plupart des gentilshommes, de la fille de mon précepteur. Hélène, une grosse fille plus âgée que moi, comme de raison. Ceci me fit souvenir de mes petites aventures amoureuses avec Nora Brady, au jour de mon adolescence. Et savez-vous, monsieur, que je regrette de tout mon cœur de ne l'avoir point épousée? Il n'y a rien de tel, monsieur, que d'avoir à la maison une vertueuse bête de somme, soyez-en sûr. Cela donne du piquant à nos jouissances dans le monde, croyez-en ma parole. Aucun homme n'a besoin de se restreindre ni de se refuser un seul amusement à cause de sa femme. Au contraire, s'il choisit bien sa bête, il la choisira de façon à ce qu'elle ne soit point un obstacle à son plaisir, mais une consolation à ses heures d'ennui. Par exemple, j'ai la goutte. Qui est-ce qui me soigne? Un mercenaire qui me vole toutes les fois qu'il le peut. Ma femme ne vient jamais auprès de moi. Quel ami ai-je? Pas un dans l'univers. Les hommes du monde, tels que vous et moi, ne font pas d'amis, et nous sommes bien sots. Ayez un ami, monsieur, et que cet ami soit une femme, un bon cheval de bât qui vous aime. C'est la plus précieuse sorte d'amitié, car tout ce qui s'en dépense est du côté de la femme. L'homme n'a besoin d'y contribuer en rien. Si c'est un vaurien, elle jurera qu'il est un ange. Si c'est un brutal, elle ne l'en aimera que mieux pour ses mauvais traitements. Elles aiment cela, monsieur, les femmes. Elles sont nées pour notre plus grande consolation, pour notre plus grande commodité. Elles sont, moralement parlant, nos tire-bottes. Et pour des hommes de notre genre de vie, croyez-moi, une personne de cette espèce serait inappréciable. Je ne parle que pour votre bien-être physique et moral, remarquez. Pourquoi n'ai-je point épousé la pauvre Hélène Flower, la fille du curé? Je ne voyais dans ses discours que les remarques d'un homme affaibli et désappointé, quoique depuis, peut-être, j'ai eu lieu de reconnaître la vérité des assertions de Sir Charles Lyndon. Le fait est que, dans mon opinion, nous achetons souvent l'argent beaucoup trop cher. Quelques milliers de livres sterling par an, en dédommagement d'une odieuse femme, c'est un mauvais marché pour un jeune garçon, pour peu qu'il ait de talent et de courage. Et il y a eu des moments de ma vie où, au milieu de mon opulence et de ma splendeur, avec une demi-douzaine de lords à mon lever, avec les plus beaux chevaux dans mes écuries, la plus magnifique maison pour demeure, avec un crédit illimité chez mon banquier, et Lady Lyndon en sus, j'aurais voulu redevenir simple soldat au régiment de Bulov ou n'importe quoi pour être délivré d'elle. Mais revenons à mon histoire. Sir Charles, avec sa complication de mots, mourait devant nous peu à peu, et je n'ai pas de doute qu'il n'aurait pas pu lui être agréable de voir un beau jeune homme faire la cour à sa veuve devant son nez, pour ainsi dire. Après que je fus entré dans la maison, à la faveur de la discussion sur la transsubstantiation, je trouvais une douzaine d'occasions nouvelles d'accroître mon intimité, et c'est à peine si je sortais de chez Milady. Le monde jasait, tempêtait. Mais que m'importait, à moi? Le monde criait haro sur l'impudent aventurier irlandais, mais j'ai raconté quelle était ma façon de faire taire ces sortes d'envieux, et mon épée, à cette époque, avait acquis une telle réputation en Europe que peu de gens se souciaient de l'affronter. Une fois que j'ai pu m'emparer d'une place, je la garde. J'ai été dans bien des maisons où je voyais les hommes m'éviter. « Fille, le vil Irlandais, disait-il, pois, le grossier aventurier. Au diable, l'insupportable fat, le chevalier d'industrie. » Et autres propos semblables. Cette haine ne m'a pas rendu de médiocres services dans le monde, car lorsque je mets la main sur quelqu'un, rien ne peut me décider à lâcher prise, et on me laisse le champ libre, ce qui n'en vaut que mieux. Caliste, je l'appelais Caliste dans ma correspondance, Caliste, je te jure par la candeur immaculée de ton âme, par l'inaltérable éclat de tes yeux, par tout ce qu'il y a de pur et de chaste dans le ciel et dans ton cœur, que je ne cesserai jamais de te suivre. Le mépris, je puis le supporter, et l'ai supporté de toi. La différence, je puis la surmonter. C'est un rocher que mon énergie saura gravir, un aimant qui attire mon intrépide âme de fer. Et c'était vrai, je n'aurais pas renoncé à elle, non, quand on m'aurait jeté à coups de pied à bas de l'escalier, chaque jour que je me serais présenté à sa porte. C'est ma manière de fasciner les femmes. Que l'homme qui a sa fortune à faire se rappelle cette maxime, « Attaquer est l'unique secret. Osez et le monde cède toujours, ou s'il vous bat quelquefois, osez de nouveau et il succombera. » À cette époque, mon énergie était si grande que si je me fusse mis à la tête d'épouser une princesse du sang, je l'aurais eue. Je racontais mon histoire à Calliste et j'altérais peu, très peu, la vérité. Mon objet était de l'effrayer, de lui montrer que ce que je voulais, je l'osais, que ce que j'osais, je l'obtenais. Et il y avait assez de passages frappants dans mon histoire pour la convaincre de ma volonté de faire et de mon indomptable courage. « N'espérez pas m'échapper, madame, disais-je. Faites mine d'épouser un autre homme et il meurt sous cette épée qui n'a jamais encore rencontré son maître. Fuyez-moi et je vous suivrai, fût-ce aux portes de l'enfer. » Je vous promets que c'était là un langage fort différent de celui qu'elle avait été habituée à entendre de la bouche de ses fades adorateurs. J'aurais voulu que vous vissiez comme j'écartais d'elle ses muguets. Quand je disais de cette façon énergique que je suivrais Lady Lyndon par-delà le Styx, s'il était besoin, comme de juste je n'entendais le faire que dans le cas où il ne se présenterait rien de plus sortable dans l'intervalle. Si Lyndon ne mourait pas, à quoi bon poursuivre la comtesse? Et je ne sais comment, vers la fin de la saison de Spa, à ma grande mortification, je l'avoue, le chevalier eut l'air de vouloir faire un nouveau bail. Il semblait que rien ne le tuerait. « J'en suis fâché pour vous, capitaine Barry, » disait-il en riant comme de coutume. « Je suis désolé de tous vous faire attendre, vous ou tout autre. Ne feriez-vous pas mieux de vous entendre avec mon docteur, ou de charger mon cuisinier d'assaisonner mon omelette avec de l'arsenic? Qui de vous gage, messieurs, ajouta-t-il, que je ne vivrai pas encore assez pour voir le capitaine Barry pendu? » Le fait est que les médecins l'avait rafistolé pour un an. C'est mon bonheur habituel, ne puis-je m'empêcher de dire à mon oncle, qui était mon confidentiel et mon très excellent conseiller dans toutes mes affaires de cœur, j'ai prodigué des trésors d'affection à une coquette de comtesse, et voici son mari rendu à la santé et capable de vivre je ne sais combien d'années. Et comme pour ajouter à ma mortification, juste à cette époque, il arriva à Spa une héritière anglaise, la fille d'un fabricant de chandelles, deux ou trois fois millionnaire, et Madame Cornu, la veuve d'un fermier général et éleveur de bestiaux normands, avec une hydropisie et 200 000 livres sterling de rente. « À quoi bon suivre les Lyndon en Angleterre, dis-je, si le chevalier ne meurt pas ?»« Ne les suis pas, mon candide enfant, répliqua mon oncle. Reste ici à faire la cour aux nouvelles venues. » « Oui, et perdre Calliste pour toujours, et la plus grande fortune de l'Angleterre. »« Bah, bah, les jeunes gens comme vous prennent aisément feu et se découragent aisément. Entretenez une correspondance avec Lady Lyndon. Vous savez qu'elle n'aime rien tant. Vous avez l'abbé irlandais qui vous écrira les plus charmantes lettres à un écu pièce. Laissez-la partir, écrivez-lui, et pendant ce temps-là, ayez l'œil sur tout ce qui peut s'offrir. Qui sait ? Vous pourriez épouser la veuve normande, l'enterrer, prendre son argent et être prêt pour la comtesse à la mort du chevalier. Et ainsi, avec des serments de l'attachement respectueux le plus profond, et après avoir donné 20 louis à sa femme de chambre pour une boucle de ses cheveux, ce dont bien entendu la soubrette informa la maîtresse, je pris congé de la comtesse lorsqu'elle dut retourner dans ses terres, lui jurant de la suivre aussitôt que j'aurais mis fin à une affaire d'honneur que j'avais sur les bras. Je passerai sur les événements de l'année qui s'écoula avant que je la revisse. Elle m'écrivit, conformément à sa promesse, avec beaucoup de régularité d'abord, un peu moins fréquemment ensuite. En attendant, je ne faisais pas trop mal mes affaires au jeu, et j'étais sur le point d'épouser la veuve Cornu, nous étions alors à Bruxelles, et la pauvre âme était folle de moi, quand la Gazette de Londres me fut mise dans les mains, et je lus le paragraphe suivant. « Est mort à Castle Lyndon, dans le royaume d'Irlande, le très honorable Sir Charles Lyndon, chevalier du Bain, membre du Parlement pour Lyndon dans le Devonshire, et pendant nombre d'années le représentant de Sa Majesté dans diverses cours d'Europe. Il laisse un nom cher à tous ses amis par ses vertus et ses talents multipliés, une réputation justement acquise au service de Sa Majesté, et une veuve inconsolable pour déplorer sa perte. Sa seigneurie, la comtesse de Lyndon, était à Bath lorsque lui est parvenue l'horrible nouvelle de la mort de son mari, et elle est partie immédiatement pour l'Irlande afin de rendre les derniers et tristes devoirs à ses restes bien-aimés. Le soir même, je partis en poste pour Ostende, d'où je frétais un bâtiment pour Douvres. Et voyageant rapidement vers l'ouest, j'atteignis Bristol, où je m'embarquai pour Waterford, et me trouvai, après 11 ans d'absence, dans mon pays natal. Chapitre 14. Je retourne en Irlande et étale ma splendeur et ma générosité dans ce royaume. Combien les temps étaient changés pour moi. J'avais quitté mon pays, pauvre enfant, sans le sou, simple soldat, dans un misérable régiment en marche. Je revenais homme accompli, ayant à moi 5 000 guinées, une magnifique garde-robe et un écrin qui en valait 2 000 autres, ayant joué un rôle dans toutes les scènes de la vie et un rôle qui ne laissait que d'être assez distingué, ayant fait la guerre et l'amour, étant, par mon propre génie et par mon énergie, parvenu de la pauvreté et de l'obscurité à l'aisance et à la splendeur. Quand je mettais la tête à la portière de ma voiture, roulant sur ces routes si nues et si tristes, le long des misérables cabanes de paysans qui sortaient en haillons pour admirer le brillant équipage, et poussaient des vivats en l'honneur de sa seigneurie, à la vue du magnifique étranger dans le superbe carrosse doré, et de mon énorme domestique Fritz s'étalant derrière avec sa moustache frisée, sa longue queue et sa livrée verte à brandebourgs d'argent, je ne pouvais m'empêcher de me considérer avec beaucoup de complaisance et de remercier mon étoile de m'avoir doué de tant de bonnes qualités. Sans mon mérite, j'aurais été un petit hobereau, sans culture, tel que j'en voyais faire les crânes dans les misérables villes par lesquelles ma voiture passait pour aller à Dublin. J'aurais épousé Nora Brady, et quoique Dieu merci je ne l'ai pas fait, je n'ai jamais pensé à cette fille qu'avec bienveillance, et en ce moment je me rappelle plus clairement l'amertume de sa perte que tout autre incident de ma vie. Je serais à l'heure qu'il est, père de 10 enfants, ou fermier à mon compte, ou agent d'un propriétaire, ou employé de l'accise, ou procureur, et voilà que j'étais un des plus fameux gentilshommes d'Europe. J'ordonnai à mon valet de se procurer un sac de gros sous et de les jeter à la foule pendant que nous changions de chevaux, et je vous garantis qu'il y eut autant d'acclamations en mon honneur que si Milord Townsend, le Lord Lieutenant lui-même, avait passé. Ma seconde journée de voyage, car les routes irlandaises étaient rudes à cette époque, et un carrosse de gentilhomme n'y avançait qu'avec une lenteur terrible, m'amena à Carlow, et je descendis à cette même auberge où je m'étais arrêté 11 ans auparavant, quand je m'enfuyais de chez nous, après la prétendue mort de Quinn en duel. Comme chaque moment de cette scène est gravé dans ma mémoire, l'ancien aubergiste qui m'avait servi n'était plus. La maison que je trouvais alors si confortable était misérable et délabrée. Mais le claret était aussi bon qu'autrefois, et je fis venir l'hôte pour en prendre un pot avec moi et me conter les nouvelles du pays. Il était aussi communicatif que ses confrères le sont ordinairement. Les récoltes et les marchés, le prix des bestiaux à la dernière foire de Castle Dermot, la dernière histoire sur le vicaire protestant et la dernière plaisanterie du père Hogan, le prêtre catholique. Comme quoi les White Boys avaient brûlé les meules du Squire Scanlon et les voleurs de grand chemin avaient été déjoués dans leur attaque contre la maison de Sir Thomas. Qui devait chasser avec la meute de Kilkenny à la saison prochaine et la merveilleuse partie qu'ils avaient faite en mars dernier. Quelle troupe était dans la ville, et comme quoi Miss Biddy Toole s'était enfuie avec l'enseigne Mullins. Toutes les nouvelles du sport, des assises et des sessions trimestrielles étaient détaillées par ce digne chroniqueur de petite bière, qui s'étonnait que mon honneur ne les eût pas entendu dire en Angleterre ou à l'étranger. où il semblait croire que le monde était aussi intéressé que lui aux faits et gestes de Kilkenny et de Carlow. J'écoutais ses récits avec infiniment de plaisir, je l'avoue, car de temps en temps, il prononçait un nom que je me rappelais de l'ancien temps et réveillait en moi une foule d'associations d'idées. J'avais reçu beaucoup de lettres de ma mère qui m'informaient de ce qui se passait dans la famille de Bradystown. Mon oncle était mort, et Mick, son fils aîné, l'avait également suivi au tombeau. Les filles avaient quitté le toit paternel aussitôt que leur frère aîné était venu y commander. Les unes étaient mariées, les autres étaient allées s'établir avec leur odieuse vieille mère dans quelque ville d'eau perdue. Hewlett, en héritant de la propriété, n'avait hérité que de dettes, et Castle Brady n'était plus habité que par des chauves-souris et des hiboux, et par le vieux garde-chasse. Ma mère, Mrs. Harry Barry, était allée vivre à Bray pour être de la congrégation de M. Jowls, son prédicateur favori, qui y avait une chapelle. Et enfin, l'aubergiste me dit que le fils de Mrs. Barry avait passé à l'étranger, s'était engagé au service de la Prusse et y avait été fusillé comme déserteur. Peu m'importe d'avouer que je louais à l'aubergiste un fort bidet après dîner et qu'au tombé de la nuit, je fis 20 000 en arrière pour revoir mon ancienne demeure. Le cœur me battit en la voyant. Paris-Ville avait un mortier et un pilon au-dessus de la porte et était appelé « dépôt d'esculape » par le docteur McShane. Un garçon à cheveux roux préparait un emplâtre dans l'ancien parloir. La petite fenêtre de ma chambre, jadis si proprette et si brillante, avait plusieurs vitres cassées et remplacées par des chiffons. Les fleurs avaient disparu des plates-bandes si bien tenues par ma soigneuse bonne mère. Dans le cimetière, il y avait deux noms ajoutés à la pierre placée au-dessus du caveau de la famille des Brady. C'étaient ceux de mon cousin, dont je ne me souciais guère, et de mon oncle, que j'avais toujours aimé. Je demandai à mon ancien camarade, le forgeron, qui m'avait si souvent battu au temps jadis, de donner à mon cheval un picotin et une litière. C'était maintenant un homme à l'air usé et fatigué, avec une douzaine de sales enfants déguenillés, tripotant dans la boue autour de sa forge, et il n'eut aucune mémoire du beau gentilhomme qui se tenait devant lui. Je ne cherchais à me rappeler à son souvenir que le lendemain, où je lui mis 10 guinées dans la main et lui dis de boire à la santé de l'anglais Redmond. Quant à Castle Brady, les portes du parc y étaient toujours, mais les vieux arbres avaient été coupés dans l'avenue, une souche noire se dressant çà et là et prolongeant son ombre, comme je passais au clair de la lune, sur la vieille route défoncée et envahie par l'herbe. Quelques vaches y paissaient. La porte du jardin avait disparu et l'endroit tournait à la forêt vierge. Je m'assis sur l'ancien banc où je m'étais assis le jour que Nora se joua de moi. Et je crois vraiment que mon émotion fut aussi forte qu'elle l'avait été 11 ans auparavant. Et je me surpris tout près de pleurer à l'idée que Nora Brady m'avait abandonné. Je crois qu'on n'oublie rien. J'ai vu une fleur ou un mot sans importance éveiller des souvenirs qui, je ne sais comment, dormaient depuis des vingtaines d'années. Et quand j'entrais dans la maison de Clarges Street, où je suis né, elle était devenue une maison de jeu la première fois que je visitais Londres, tout d'un coup la mémoire de mon enfance me revint, oui, de ma première enfance. Je me rappelais mon père en habit vert et or, me soulevant pour me faire voir un carrosse doré qui stationnait devant la porte, et ma mère en robe à fleurs, avec des mouches sur sa figure. Est-ce qu'un jour tout ce que nous avons vu et pensé et fait nous passera comme un éclair dans l'esprit de cette manière? J'aimerais mieux que non. J'éprouvais cela en m'asseyant sur le banc de Castle Brady et en songeant au temps passé. La porte du vestibule était ouverte. Il en était toujours ainsi dans cette maison. La lune entrait par les longues vieilles fenêtres et dessinait de pâles damiers sur les planchers. Et les étoiles vous regardaient de l'autre côté, dans le bleu de la fenêtre béante, au-dessus du grand escalier. De là, vous pouviez voir la grande horloge de l'écurie, avec ses chiffres encore brillants. Il y avait eu autrefois de jolis chevaux dans cette écurie, et je me représentais encore l'honnête face de mon oncle, et je l'entendais parler à ses chiens qui venaient sauter et geindre et aboyer autour de lui par une gaie matinée d'hiver. C'est là que nous montions à cheval, et les jeunes filles nous regardaient de la fenêtre du vestibule, où je me tenais et regardais moi-même ce lieu devenu triste, verdâtre, solitaire. Il y avait une lueur rouge qui brillait à travers les fentes d'une porte à un des coins du bâtiment, et bientôt vint un chien qui aboya fortement, et un homme qui boitait le suivit avec un fusil. « Qui va là ?» dit le vieil homme. « Phil Purcell, ne me reconnaissez-vous pas » criai-je. « C'est Redmond Barry. » Je crus d'abord que le vieillard allait me tirer dessus, car il dirigea son arme sur la fenêtre. Mais je lui criai d'arrêter, et descendis et l'embrassai. « Bast, je ne me soucie pas de dire le reste. » Phil et moi veillâmes tard, et parlâmes de mille puérilités d'autrefois qui n'ont d'intérêt pour personne au monde à présent. Car qui est-ce qui s'inquiète de Barry Lyndon? Je plaçai Sanguinet sur la tête du vieillard quand j'allais à Dublin, et je lui fis une rente viagère qui lui permit de passer à l'aise ses vieux jours. Le pauvre Phil Purcell s'amusait à jouer aux cartes, des cartes excessivement sales, avec une ancienne connaissance à moi qui n'était autre que Tim, celui qu'on appelait mon valet au temps jadis, et que le lecteur peut se rappeler vêtu de la vieille livrée de mon père. Elle flottait sur lui en ce temps-là, et elle lui tombait sur les poignets et sur les talons. Mais Tim, tout en protestant qu'il avait failli mourir de chagrin quand j'étais parti, avait trouvé moyen de devenir énormément gras en mon absence, et aurait presque rempli l'habit de Daniel Lambert ou celui du vicaire de Castle Brady qu'il servait en qualité de clerc. Je l'aurais pris à mon service sans sa monstrueuse taille qui le rendait tout à fait impropre à être auprès d'un homme de condition. Je lui fis donc un beau cadeau et promis d'être parrain de son prochain enfant, le 11e depuis mon absence. Il n'est pas de pays au monde où l'œuvre de multiplication prospère autant que dans mon île natale. Monsieur Tim avait épousé la femme de chambre des filles de la maison, qui avait été très bonne pour moi au temps jadis. Et je dus aller le lendemain embrasser la pauvre Molly, et je trouvai une souillon dans une hutte de boue entourée d'une nichée d'enfants presque aussi déguenillés que ceux de mon ami le forgeron. De Tim et de Phil Purcell, que le hasard me faisait ainsi rencontrer ensemble, j'eus les nouvelles les plus fraîches de ma famille. Ma mère se portait bien. « Ma foi, monsieur, dit Tim, vous êtes venu à temps, peut-être bien pour empêcher une addition à votre famille. » « Monsieur, me récriai-je, pris d'indignation. « Sous forme de beau-père, s'entend, dit Tim. La maîtresse est sur le point de se conjoindre avec monsieur Giles, le prédicateur. » La pauvre Nora, ajouta-t-il, avait fait de nombreuses additions à l'illustre race des Quinn, et mon cousin Ulick était à Dublin, n'arrivant pas à grand-chose de bon, et ayant trouvé moyen de voir la fin du peu qu'il restait de valable dans la propriété que mon bon vieil oncle avait laissée. Je vis que je n'aurais pas une médiocre famille à pourvoir, et donc, pour terminer la soirée, Phil, Tim et moi, nous bûmes une bouteille d'Asquebaugh, dont le goût m'était resté en mémoire depuis 11 années, et nous ne nous séparâmes qu'avec les plus chauds témoignages d'amitié, et lorsque le soleil avait déjà, depuis quelque temps, fait son apparition. Je suis excessivement affable. C'est là un de mes signes caractéristiques. Je n'ai pas de faux orgueil, comme en ont tant de gens de ma naissance, et, à défaut de meilleure compagnie, je trinquerais avec un valet de charrue ou un simple soldat aussi volontiers qu'avec le premier noble du pays. Je retournai au village dans la matinée et visitai Barryville sous le prétexte d'acheter des drogues. Les clous auxquels je suspendais mon épée à poignée d'argent étaient encore à la muraille. Un vésicatoire était sur le rebord de la fenêtre où le « whole duty of man », devoir complet de l'homme, de ma mère, avait jadis sa place. Et le dieu McCahan avait découvert qui j'étais, mes compatriotes découvrent tout, et bien d'autres choses encore, et, riant sous cap, me demanda comment j'avais laissé le roi de Prusse, et si mon ami l'empereur Joseph était aussi aimé que l'avait été l'impératrice Marie-Thérèse. Les sonneurs de cloches m'auraient salué d'un carillon, mais il n'y en avait qu'un, Tim, lequel était trop gras pour le faire, et je partis à cheval avant que le vicaire, le docteur Bolton, successeur du vieux monsieur Testin, qui avait le bénéfice de mon temps, n'eût pu sortir pour me complimenter. Mais les galopins de ce misérable village s'étaient formés en salle armée pour me faire accueil, et saluèrent mon départ de leur hurra pour Master Redmond. Mes gens n'étaient pas médiocrement inquiets de moi lorsque je revins à Carlow, et l'aubergiste avait grand-peur, dit-il, que les voleurs ne m'eussent pris. Là aussi mon nom et ma condition avaient été trahis par mon domestique Fritz, qui n'avait pas épargné les louanges de son maître et avait inventé sur moi de magnifiques histoires. Il me représenta comme intime avec la moitié des souverains de l'Europe et comme le favori de la plupart d'entre eux. Le fait est que j'avais rendu l'ordre de l'éperon de mon oncle héréditaire et voyageais sous le nom du chevalier Barry, chambellan du duc de Hohenzollern-Sigmaringen. Ils me donnèrent les meilleurs chevaux de leur écurie pour me transporter dans la direction de Dublin et les plus fortes cordes pour harnais. Et nous marchâmes assez bien, et il n'y eut pas de rencontre entre les voleurs et les pistolets dont Fritz et moi étions pourvus. Nous couchâmes cette nuit-là à Kilcullen, et le lendemain, avec 4 chevaux à mon carrosse, 5 000 guinées dans ma bourse et une des plus brillantes réputations d'Europe, je fis mon entrée dans la ville de Dublin, dans cette ville que j'avais quittée, petit mendiant, 11 ans plus tôt. Les habitants de Dublin ont un tout aussi louable désir de connaître les affaires de leurs voisins que les habitants de la campagne. Et il est impossible à un gentilhomme, quelque modeste que soient ses désirs, et il est notoire que les miens l'ont été toute ma vie, d'entrer dans cette capitale sans avoir son nom imprimé dans chaque endroit où il y a un journal et mentionné dans une foule de sociétés. Mon nom et mes titres coururent toute la ville le lendemain de mon arrivée. Un grand nombre de gens civils me firent l'honneur de se présenter à mon logement quand j'en eus fait choix. Et c'était un soin d'une immédiate nécessité, car les hôtels de la ville n'étaient que des trous vulgaires qui ne pouvaient convenir à un gentilhomme aussi fort à la mode et aussi élégant que je l'étais. J'en avais été prévenu par des voyageurs sur le continent, et ayant résolu d'arrêter tout de suite un logement, j'ordonnai au postillon de parcourir lentement les rues jusqu'à ce que j'eusse choisi un endroit convenable à mon rang. Cette combinaison et les questions maladroites de mon Allemand Fritz, qui était chargé de prendre des renseignements aux différentes maisons, jusqu'à ce que nous fussions tombés sur un appartement convenable, attirèrent une foule immense autour de ma voiture, et quand notre choix fut arrêté, vous auriez supposé que j'étais le nouveau général des troupes, tant était grande la multitude qui nous suivait. Je louai enfin un bel appartement dans Capel Street, payai au postillon en guenilles qui m'avait conduit un bon pourboire, et m'installant dans mon logis avec mes bagages et Fritz, priai mon hôte de me trouver un second homme pour porter ma livrée, une couple de vigoureux porteurs de chaises bien famés avec leurs machines, et un cocher qui eut à me louer de beaux chevaux pour mon carrosse, ainsi que des chevaux de selle de bon service à vendre. Je lui donnai une forte somme d'avance, et je vous promets que l'effet de ma demande fut tel que le lendemain, j'eus un véritable lever dans mon antichambre. C'était une procession de grooms, de valets et de maîtres d'hôtel. J'eus des offres de chevaux à vendre, de quoi monter un régiment, tant de la part des marchands que des gentilshommes du plus haut ton. Sir Lawler Gawler vint me proposer la jument bay la plus élégante qu'on eût jamais vue. Milord Dundoodle avait un attelage de 4 chevaux qui ne ferait pas honte à mon ami l'impreur. Et le marquis de Ballyragget m'envoya son valet de chambre et ses compliments pour me dire que si je voulais aller à ses écuries ou lui faire honneur de déjeuner avec lui au préalable, il me montrerait les 2 plus beaux chevaux gris de l'Europe. Je me déterminai à accepter les invitations de Dundoodle et de Ballyragget, mais à acheter mes chevaux des marchands. C'est toujours la meilleure manière. D'ailleurs, à cette époque, en Irlande, si un gentilhomme garantissait son cheval et que le cheval ne fût pas sain, aucune dispute s'éleva, le remède que vous aviez était l'offre d'une balle dans votre gilet. J'avais joué à ce jeu-là trop sérieusement pour le faire à la légère. Et je puis dire à ma gloire que jamais je ne me suis engagé dans un duel, à moins d'avoir une véritable, avantageuse et prudente raison de le faire. Cette gentilhommerie irlandaise était d'une simplicité qui m'amusait et me surprenait. S'ils vous débitent plus de comptes que leurs francs voisins de l'autre côté de l'eau, en revanche, ils en croient davantage. et je me fis en une seule semaine une réputation à Dublin qu'il aurait fallu 10 ans et une mine d'or pour acquérir à Londres. J'avais gagné au jeu 500 000 livres sterling. J'étais le favori de l'impératrice Catherine de Russie, l'agent confidentiel de Frédéric de Prusse. C'est moi qui avais gagné la bataille de Horkirchen. J'étais cousin de Madame du Barry, la favorite du roi de France, et 1000 autres choses encore. Dans le fait, s'il faut dire la vérité, je touchais un mot d'une foule de ces histoires à mes amis Ballyracket et Gawler, et ils n'étaient pas lents à broder le thème que je leur avais fourni. Après avoir été témoin des splendeurs de la vie civilisée à l'étranger, la vue de Dublin en 1771, quand j'y revins, m'inspira tout autre chose que du respect. Elle était aussi sauvage que Varsovie elle-même, sans avoir la grandeur royale de cette dernière ville. Le peuple y avait l'air plus déguenillé qu'aucune autre race que j'ai jamais vue, excepté les hordes des Bohémiens le long des bords du Danube. Il n'y avait pas, comme j'ai dit, une auberge dans la ville où pût habiter un homme de condition. Les infortunés qui n'avaient pas de voiture et qui allaient à pied la nuit dans les rues couraient grand risque de recevoir des coups de couteau des femmes et des ruffians qui y étaient en embuscade, d'un tas de bandits en haillons qui ne savaient ce que c'était qu'un soulier et un rasoir. Et lorsqu'un gentilhomme entrait dans sa chaise ou son carrosse pour aller à une soirée ou au théâtre, les flambeaux des laquais éclairaient une foule d'étranges faces milésiennes, aux baragouins sauvages, capables d'effrayer une personne distinguée dont les nerfs ne seraient que de force moyenne. J'étais heureusement doué de nerfs robustes, et puis j'avais déjà vu mes aimables compatriotes. Je sais que cette description irritera plusieurs patriotes irlandais qui n'aiment pas qu'on médise la nudité de notre pays, et sont fâchés si l'on dit toute la vérité sur son compte. Mais, bah, c'était une pauvre ville de province que Dublin, à l'époque dont je parle. Et bien des résidences allemandes du 10e ordre étaient plus distinguées. Il y avait alors, il est vrai, plus de 300 pairs qui y résidaient, et une chambre des communes, et Milord Maire et sa corporation, et une tapageuse université dont les étudiants ne faisaient pas peu de désordre la nuit, baignaient de force les boutiquiers et imprimeurs qui leur déplaisaient et faisaient la loi au théâtre de Crow Street. Mais j'avais trop vu la première société de l'Europe pour être bien tenté de celle de ces bruyants messieurs, et j'avais trop en moi du gentilhomme pour me mêler aux disputes et à la politique de Milord Maire et de ses aldermen. À la Chambre des communes, il y a quelques douzaines de gens fort agréables. Je n'ai jamais entendu dans le Parlement anglais de meilleurs discours que ceux de Flood et de Daly, de Galway. Dick Sheridan, quoiqu'il ne fût pas bien élevé, était un compagnon de table aussi amusant et aussi spirituel que j'en ai jamais rencontré. Et bien que, pendant les interminables discours de M. Edmund Burke dans la chambre anglaise, je m'endormisse toujours, cependant je tiens de personnes bien informées que M. Burke était un homme de grands moyens et même considéré comme éloquent dans ses moments d'inspiration. Je commençais bientôt à jouir, dans toute leur étendue, des plaisirs qu'offre ce misérable endroit, et qui étaient à la portée d'un gentilhomme. Le ranelagh et le ridotto, M. Mossop dans Crow Street, les fêtes de Milord Lieutenant, où l'on buvait trop, et où l'on jouait trop peu pour une personne de mes habitudes élégantes et raffinées. Le café de Daly et les maisons de la noblesse me furent bientôt ouverts, et je remarquai avec étonnement dans la plus haute société ce que j'avais observé dans la plus basse, lors de ma malheureuse première visite à Dublin, un manque extraordinaire d'argent et une quantité déraisonnable de billets sous seing privé, contre lesquels je n'étais nullement disposé à risquer mes guinées. Les dames aussi avaient la rage du jeu, mais une répugnance excessive à payer quand elles perdaient. Ainsi, quand la vieille comtesse de Trumpington perdit contre moi 10 pièces aux quadrilles, elle me donna, au lieu d'argent, une traite sur son agent de Galway, que je mis avec beaucoup de politesse à la chandelle. Mais quand la comtesse me proposa une seconde partie, je répondis que, dès que les fonds de sa seigneurie seraient arrivés, je serais le plus disposé du monde à jouer contre elle. Mais que jusque-là j'étais son très humble serviteur. Et je maintins cette résolution et ce singulier caractère dans toute la société de Dublin, déclarant chez Daly que j'étais prêt à jouer contre n'importe qui, n'importe quoi, à n'importe quel jeu, ou à lutter à l'escrime, ou à courir contre tout homme, étant tenu compte du poids, ou à tirer au vol et au but. Et dans ce dernier genre de talent, surtout si l'objet qui sert de but est en vie, les gentilshommes d'alors avaient une adresse peu commune. Comme de raison, je dépêchai à Castle Linden un courrier à ma livrée avec une lettre particulière pour Runt, lui demandant les plus grands détails sur la santé et l'état moral de la comtesse Linden. Et une touchante et éloquente lettre à sa seigneurie, dans laquelle je l'invitais à se rappeler les anciens jours, et que je liais avec un seul cheveu de la mèche que j'avais achetée à sa femme de chambre, et où je lui disais que Sylvandre se souvenait de son serment et ne pourrait jamais oublier sa Caliste. La réponse que je reçus d'elle était excessivement peu satisfaisante et peu explicite. Celle de M. Runt assez explicite, mais aucunement agréable dans son contenu. Mais Lord George Poynings, le fils cadet du marquis de Tiptoff, faisait une cour très remarquée à la veuve, étant de ses parents, et ayant été appelé en Irlande relativement au testament du défunt Sir Charles Linden. Or, il y avait à cette époque en Irlande une sorte de loi, grosso modo, qui était forte à la convenance des personnes désireuses d'une justice expéditive et dont les journaux du temps contiennent une centaine de preuves. Des gens prenant les surnoms de capitaine Fireball, grenade, lieutenant Buffcoat, habit de buffle, et enseigne Steel, acier, envoyaient fréquemment des lettres d'avertissement aux propriétaires et les assassinaient s'ils n'en étaient pas tenus compte. Le célèbre capitaine Thunder, tonnerre, était la terreur des comtés du Sud, et son affaire était de marier les hommes qui n'avaient pas suffisamment le moyen de plaire aux parents des jeunes personnes, ou qui, peut-être, n'avaient pas le temps de faire une cour longue et compliquée. J'avais trouvé mon cousin Yulik à Dublin, devenu très gras et très pauvre, pourchassé par les juifs et les créanciers, habitant toutes sortes de coins étranges, d'où il sortait au tombé de la nuit pour se rendre au château ou aller faire sa partie de cartes à la taverne. Mais c'était toujours un courageux garçon, et je lui touchai un mot de l'état de mon cœur au sujet de Lady Linden. « La comtesse de Linden, dit le pauvre Yulik. Eh bien, voilà qui est merveilleux. J'ai moi-même été très tendre pour une jeune personne, une Killjoy de Ballyhack, qui a 10 000 livres sterling de fortune et dont sa seigneurie est tutrice. Mais comment un pauvre diable tel que moi, sans un habit sur le dos, peut-il réussir auprès d'une héritière en pareille compagnie? Je pourrais tout aussi bien aspirer à la comtesse elle-même. Vous ferez mieux de vous abstenir, dis-je en riant. L'homme qui l'essayera court la chance de sortir du monde auparavant. Et je lui expliquai mes propres intentions sur Lady Linden. Et l'honnête Yulik, dont la considération pour moi était prodigieuse depuis qu'il me voyait cette magnifique apparence et apprenait combien merveilleuses avaient été mes aventures et grande mon expérience de la vie fashionable, fut confondu d'admiration pour mon audace et mon énergie quand je lui confiai mon projet d'épouser la plus grande héritière d'Angleterre. Je dis à Yulik de sortir de la ville sous le prétexte qu'il voudrait et de mettre à la poste qui est près de Castle Linden une lettre dont l'écriture fut par moi contrefaite et dans laquelle j'avertissais solennellement Lord George Poynings de quitter le pays, disant que ce grand butin n'avait jamais été destiné à ses pareils et qu'il y avait assez d'héritières en Angleterre sans venir les prendre sur les domaines du capitaine Fireball. La lettre était écrite sur un sale morceau de papier et de la plus mauvaise orthographe. Milord l'a reçue par la poste et, étant un jeune homme plein de cœur, il ne fit qu'en rire comme de raison. Son malheur voulut qu'il se montrât à Dublin, fort peu de temps après, qu'il fut présenté au chevalier Redmond Barry, à la table du Lord Lieutenant, qu'il alla avec lui et plusieurs autres gentilshommes au club de Daly, et que là, dans une discussion au sujet de la généalogie d'un cheval, où tout le monde dit que j'avais raison, on en vint aux gros mots, et le résultat fut une rencontre. Je n'avais pas eu d'affaire à Dublin depuis mon arrivée, et l'on était curieux de voir si je valais ma réputation. Je ne fais pas le fanfaron sur ces matières, mais je fais ce qu'il y a à faire quand le temps est venu. Et le pauvre Lord George, qui avait un joli poignet et l'œil prompt, mais avait appris à cette maladroite école anglaise, ne tint devant ma pointe que jusqu'à ce que j'eusse choisi où je le toucherais. Mon épée lui entra sous sa garde et lui sortit par le dos. Lorsqu'il tomba, il me tendit la main comme un bon garçon et me dit « Monsieur Barry, j'avais tort ». Je ne me sentis pas très à l'aise quand le pauvre diable fit cet aveu, car la dispute était de mon fait, et pour dire la vérité, je n'avais jamais eu l'intention qu'elle finît autrement que par une rencontre. Il garda le lit 4 mois des suites de sa blessure, et la même poste qui porta à Lady Lyndon la nouvelle du duel lui remit aussi un message du capitaine Firebrace où il était dit « C'est le numéro 1 ». « C'est vous, Ulick, dis-je, qui serez le numéro 2. »« Ma foi, dit mon cousin, c'est assez d'un. » Mais j'avais mes projets sur lui, et j'étais déterminé tout à la fois à rendre service à cet honnête garçon et à mener à bien mes desseins sur la veuve.